Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
Pour notre édition du 16 septembre, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Des Jeux qui, tranquillement, tirent à leur fin. Il reste le week-end. Reste aujourd'hui, bien sûr, mais bon, j'espère que pour vous, le week-end commence ou est déjà commencé ou commence bientôt. Et mine de rien, dimanche, ce sera déjà la cérémonie de fermeture. Il y a une athlète qui se profile tranquillement pour le titre de porteuse de drapeau de la délégation canadienne lors de cette cérémonie de fermeture. Je tairai son nom parce que à chaque introduction de ce magazine, je vole les punchs de Philippe Asselin qui sera là dans quelques secondes à peine pour nous offrir les derniers résultats. Disons deux choses. Il y a quelqu'un, c'est une femme, et ses chances sont très bonnes qu'elle soit désignée porteuse de drapeau, parce que ces Paralympiques sont de très, très haut niveau. Et cette même jeune femme sera notre invitée. Enfin, on lui a parlé un peu plus tôt aujourd'hui et on vous fera entendre l'entrevue que j'ai réalisée avec elle. Et elle s'appelle Aurélie Rivard. Ah non, je l'ai dit! Ah! Mais Philippe vous donnera tous les détails, mais encore hier, elle a eu une très, très grosse soirée et elle sera notre invitée, donc, dans 5 minutes. Je cache mal, bien évidemment, et on cache mal notre enthousiasme. Sinon, il sera également question de cyclisme en général, cyclisme sur route aussi, une discipline qui a été très, très payante pour le Canada, une récolte de médailles impressionnante, autant au contre-la-montre que dans les autres épreuves. Alors, avec Guillaume Plourde, qui est entraîneur en paracyclisme chez Cyclisme Canada, on tentera de mettre tout ça en abîme, essayer de voir si c'est ce qui était attendu ou si ce qui était prévu. Il saura nous le dire, mais c'est vrai que les Canadiens et les Canadiennes ont été très bons, très bonnes. Et on va faire comme à l'habitude, hein, on ne change pas une formule aussi efficace et aussi réjouissante. Émilie Bouchard, la bonté, journaliste pour Sport.com, sera avec nous en direct de Rio en fin d'émission. Mais pour tout de suite, les détails et les derniers résultats, Philippe Asselin s'en vient. Bonjour Philippe.
Bonjour Alexandre.
Alors, j'ai donné le nom, mais pour le reste, je te laisse tout le plancher.
Eh bien, on va commencer avec Aurélie Rivard qui a remporté hier sa 4e médaille de ces Paralympiades alors qu'elle était en 400 mètres libre, sa catégorie S10, médaille d'or et record du monde. Elle a franchi donc en 4 minutes 29 secondes, 0,96 millième de seconde. Excellent résultat d'Aurélie Rivard. 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent dans ces Olympiques. Elle sera en action ce soir au relais.
Sauf erreur, elle a battu hier sa plus proche poursuivante par plus de 5 secondes.
Oui, tu as raison.
Mais ça n'a aucun sens, là, parce qu'on détermine les positions au centième de seconde habituellement, 5 entre la première et la deuxième place aux 400 mètres.
Elle domine complètement sa discipline. Et outre Aurélie, eh bien Benoît Huot partira de ces Jeux paralympiques avec une médaille, puisqu'il a remporté la médaille de bronze aux 400 mètres libres masculins hier. Donc, très belle façon de finir son aventure pour M. Huot. En athlétisme, on a eu aussi une médaille alors que Brett Lakatos a récolté une médaille de bronze au 800 mètres masculin, lui qui avait gagné déjà 2 médailles lors de cette quinzaine. Sinon, sa coéquipière Diane Roy au 5000 mètres féminin a terminé 7e de sa finale, elle. Et Charles Moreau, on en a parlé hier en direct dans l'émission, a gagné une médaille de bronze. Donc, pour porter le total du Canada à 23 médailles. Sinon, aujourd'hui, on surveillait du tir à l'arc alors que Karen Van Ness a perdu son match 140 à 135. C'était en ronde des 16 contre une athlète originaire de Singapour. En athlétisme, le relais masculin 4x400 mètres en T53-54 a réussi à se qualifier pour la finale qui aura lieu demain. En cyclisme sur route, Tristan Chernov a fini 15e. En natation, Tess Rootfield, Zach McAllister se sont qualifiés pour la finale ce soir, ainsi que Morgan Bird, donc à suivre pour demain. Et en basket, en fauteuil roulant, on est directement dans le match entre le Canada et la Chine pour la cinquième position.
Ça, c'est chez les femmes.
Chez les femmes, exactement. Okay. Suivant, le Canada avait été en avance après un quart de jeu la dernière fois que j'ai regardé.
OK, ben, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Donc, on joue pour la cinquième place pour les Canadiennes qui, dans l'ensemble, ont eu un pas pire tournoi, exactement. Ben, merci, Philippe. On se retrouve en fin d'émission. Elle a remporté hier donc sa troisième médaille d'or des présents Jeux, qui s'ajoute à une médaille d'argent récoltée également précédemment dans cette Paralympiade. Qui plus est, elle a fracassé le record du monde aux 400 mètres d'eau. C'est un deuxième record également à Rio pour Aurélie Rivard, avec qui on a eu le plaisir de s'entretenir un peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour Aurélie!
Bonjour.
Alors, on se parle alors que dans quelques heures maintenant, tu vas disputer ta dernière course de ton programme paralympique, programme rempli de succès jusqu'à maintenant. C'est un moment bizarre un peu, là. C'est presque fini, mais c'est pas fini encore. Comment tu te sens?
Très bien. Je suis extrêmement contente de ce que j'ai fait dans la dernière semaine. Je commence à réaliser. En fait, ce matin, c'est la première fois où est-ce que j'ai pu m'asseoir, puis regarder les médailles, puis vraiment réaliser ce qui s'est passé. C'est sûr que c'est pas encore fini, mais c'est sûr que la pression est complètement partie. Ce soir, ça va être juste être plaisir pour le relais.
Mais parlons de cette pression, justement, parce que nous, depuis le début de la série, ici, on parle de toi comme la vedette annoncée, le nouveau visage des Jeux paralympiques. Tu t'es présenté à Rio avec ce genre de commentaires qui se disaient à ton sujet. Comment tu as vécu ça?
Bien, j'ai bien vécu. C'est sûr que j'étais extrêmement stressée, mais j'essaie vraiment de faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai bloqué les médias sociaux de mon téléphone parce que autant que j'apprécie l'attention et l'espoir que j'avais, c'est vraiment trop pour moi de tout voir toute l'attention que les médias me donnaient. Mais je suis vraiment fière d'avoir été capable d'utiliser toute cette énergie-là pour me motiver à nager encore plus vite et à bien performer au lieu de choquer, comme on dit. Donc, je suis contente de comment la semaine a viré.
Oui, je pense que ça a bien fonctionné. C'est mon intuition.
Ouais.
Est-ce que tu l'as senti, cette pression médiatique? Comment ça ressemble à quoi sur le terrain? Nous, on voulait te parler, évidemment. J'imagine qu'on n'était pas les seuls. Est-ce que ça s'est rendu jusqu'à toi, cette pression-là?
C'est sûr que j'ai refusé, en fait, toutes les entrevues jusqu'à temps que je sois... que j'ai complètement terminé parce que bon, c'est une pression pour moi. Déjà que ma force n'est pas de gérer le stress et la pression, je ne voulais pas m'en rajouter. Donc, c'est sûr qu'au début de la compétition, là, les articles, mettons, de CBC qui commencent à rentrer tous les yeux sur Aurélie Rivard ou des gens comme ça, ça, c'est des choses qui me dérangeaient. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé, j'ai enlevé l'application Twitter de mon téléphone pour être sûr que ça ne me dérange pas. Mais ici, on est comme dans un autre monde. Hein. On est enfermé dans le village olympique. On ne sent pas tant que ça qu'on est au Brésil. Donc, je disais village, c'est une village. Donc, c'est pas si pire. Là.
J'ai lu, je pense que c'était ce matin, avant ton succès d'hier aux 400 mètres, tu as raconté après que dans la chambre d'appel, Benoît Huot avait su te servir des mots réconfortants et encourageants. Ça, évidemment, pour nous, c'est du bonbon, ces histoires-là. Quel rôle Benoît a eu dans tes jeux puis dans ton cheminement jusqu'à maintenant?
Ah, ben Benoît, c'est un peu le pilier. Je pense pas que si j'avais pas rencontré, je pense pas que je serais ici en ce moment parce que là, 7 ans déjà, c'est lui qui m'a en fait ouvert le chemin, qui m'a pris la main puis qui m'a embarqué dans cette grande aventure qui sont les Paralympiques. C'est lui qui m'a vraiment présenté c'était quoi le sport paralympique parce que je le connaissais pas. Puis il était là à tous les jours de ma vie pour m'aider, pour répondre à mes questions, pour me supporter moralement aussi. Puis quand j'ai commencé à avoir du succès, lui, c'est quelque chose qu'il a connu, hein, que ça fait 20 ans qu'il connaît. Donc, il savait vraiment quoi me dire, quoi faire, comment agir dans cette situation, quand ça allait moins bien ou mieux. Puis, c'est ça. Avant la course, moi, j'étais extrêmement, extrêmement nerveuse. Puis lui aussi. Mais il a vraiment juste su quoi me dire exactement. Puis je l'ai gardé dans ma tête toute ma course, puis ça a vraiment bien marché.
Et on est nombreux, ils sont nombreux à dire que tu es un peu comme sa successeur. Est-ce que c'est des traces ou un chemin que tu te sens capable de suivre pour la suite?
Je sais pas. C'est sûr que je pense pas moi en avoir une médaille, c'est sûr. C'est sûr que plus les années avancent, plus la profondeur du sport augmente aussi. Donc, c'est de plus en plus difficile de remporter des médailles, de participer à beaucoup de jeux. Ça prend beaucoup, beaucoup de motivation. C'est sûr que là, je vais pas regarder trop loin. Je vais juste penser à Tokyo, puis ça me fait peur, là. Je suis encore à Rio, donc je vais pas trop penser plus loin, mais c'est sûr que pour moi, c'est vraiment un honneur quand les gens me réfèrent à lui, à son succédeur, parce que c'est une légende dans notre sport, dans les lieux. Donc, puis aussi de l'avoir avec moi au quotidien, c'est vraiment une chance que j'ai.
Tu sais, dans les médias, hein, on n'a pas besoin, là, faut pas être très, très brillant pour faire l'association, là, un grand champion dans la piscine, une grande championne en devenir dans la piscine, puis les liens sont faciles à faire. Mais revenons sur Rio, justement. Je suis curieux de savoir, parce que c'est tes deuxièmes Jeux paralympiques. L'expérience d'athlète, là, au-delà des performances, comment ça se passe? Ou comment ça s'est passé, je devrais dire?
C'est sûr que si je compare à Londres, en fait, ça se compare pas à Londres. L'expérience est extrêmement différente parce que c'est sûr que je suis vieille. Puis quand j'étais à Londres, j'avais 16 ans. J'avais pas vraiment confiance de ce qui se passait autour de moi. J'étais extrêmement intimidée et impressionnée par tout ce qui m'entourait, par les athlètes, le village. Pour moi, c'est quelque chose de trop beau pour être vrai. On dirait que j'ai jamais réalisé que j'étais là. C'était pas mon objectif non plus. Moi, je pensais que j'étais trop jeune pour être là. Donc, j'en ai pas vraiment. J'étais là parce que j'étais là. Puis, quatre ans plus tard, là, c'est sûr que la game était différente. C'est sûr que c'était un petit peu plus stressant de s'en venir ici. J'avais beaucoup plus à perdre. Mais en même temps, je voulais aussi beaucoup profiter de l'expérience parce que c'est quelque chose qu'on vit une fois ou quatre ans. Ça veut pas dire que je vais pouvoir répéter l'expérience. Puis, la vie ici est vraiment exceptionnelle, de pouvoir côtoyer les meilleurs athlètes au monde. Puis, plus de nager dans le plus gros stage aussi. Ouais. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, c'est deux expériences complètement différentes, mais que j'apprécie autant.
J'imagine que la présence de ta famille aussi, c'est un gros plus.
Ah oui, je suis vraiment, vraiment contente qu'ils ont pu faire le voyage avec moi. Je suis aussi extrêmement reconnaissante parce que, le mois de septembre, c'est vraiment mauvais timing pour le travail, pour l'école. Ma soeur qui commençait sa deuxième année d'université, celle qui manque, mes cousins aussi, puis d'être aussi capable d'aller voir dans les estrades, ça a été quelque chose d'assez spécial pour moi.
En terminant, Aurélie, dernière question, puis je m'en voudrais de passer à côté parce que ça fait partie de ton palmarès exceptionnel. J'imagine que tes objectifs étaient élevés. Les médailles, c'est trois médailles d'or, une médaille d'argent jusqu'à maintenant. Mais il y a aussi deux records du monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle tu avais pensé avant les Jeux?
Oui, j'y avais pensé. Parce que c'était réaliste, mais bon, c'était un peu superflu aussi parce que je voulais pas trop m'en faire avec ça. Mon but était juste d'améliorer mes marques personnelles. Ouais. J'aurais été satisfaite. C'est sûr que les records du monde, je les avais dans la tête. Mais 50 mètres libres, 400 mètres libres, je peux vraiment pas mieux demander pour techniquement parlant, pour les courses, c'est vraiment des bons temps. J'ai eu beaucoup de misère avec ces deux courses-là dans les dernières années. Donc, de pouvoir vraiment step up et battre ces deux records-là ici, au moment où ça compte, c'est vraiment parfait.
Et là, ils sont plus seulement dans ta tête, ils sont dans les livres de records, Aurélie Rivard. Un grand, grand merci. Bravo. Toutes nos félicitations. Tu n'as pas idée de la fierté que ça cause chez les gens ici à la station, mais partout à Montréal et au Québec. Une bonne soirée, une bonne fin de jeu, puis on a très hâte de te retrouver quand vous serez de retour.
Merci beaucoup.
Ben, d'une discipline qui a produit de très bons résultats, la paranatation, on va enchaîner avec une autre qui, elle aussi, a été très riche en médailles et en podiums, soit le paracyclisme. Et pour revenir un peu sur ces bons résultats, on va s'entretenir avec Guillaume Plourde, qui est entraîneur en paracyclisme chez Cyclisme Canada. Monsieur Plourde, bonjour.
Bonjour.
Alors, la question que je me pose, moi, depuis le début, parce que vous devinerez que je suis pas un expert de cyclisme et de paracyclisme, c'est est-ce que la récolte si abondante de laquelle on a été témoin, est-ce qu'elle était prévue? Est-ce que c'était ça l'objectif?
Je vous dirais que oui, c'était l'objectif. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une récolte qui est historique dans l'histoire du pays en paracyclisme. Donc, les objectifs étaient élevés, les sélections avaient été faites en conséquence, et maintenant, ben, on est capable de récolter le fruit de tous ces efforts-là dans les derniers 4 ans.
C'est ces efforts-là. On parle de 4 ans, mais ça s'est passé de quelle manière? Est-ce que c'est au niveau de la détection de talents ou encore, je ne sais pas, des techniques de des techniques d'entraînement qui se sont raffinées?
Je pense que oui, il y a eu une bonne période de détection de talents qui a suivi les Jeux de Londres en 2012, 2013, 2014. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'arrivée de nouvelles technologies, puis avec l'arrivée de nouveaux services aussi, que ce soit en physiologie de l'effort ou tous ces services-là, il y a eu un suivi très, très serré qui a été fait avec chacun des athlètes dans le programme haute performance en paracyclisme. Puis je pense que c'est le combo de tous ces efforts-là qui ont fait en sorte que les entraînements ont été structurés de meilleure manière, le monitoring d'entraînement aussi. Puis maintenant, bien, on peut juste voir le résultat qui en sort à ces Jeux-ci.
C'est combien de médailles? Moi, j'en compte 7, 8?
On est à 9.
9, quand même. Et vous diriez que par rapport au potentiel de nos athlètes, disons, là, dans un avenir à moyen terme, on se situe où vis-à-vis le plafond ou vis-à-vis... Est-ce qu'on peut envisager pour la suite?
Je voudrais vous parler du plafond pour ces Jeux-ci.
Disons pour le l'équipe actuelle, disons.
Pour l'équipe actuelle, je vous dirais que on est probablement dans un niveau de médaille qui est optimal selon les sélections qui ont été faites.
D'accord.
C'est sûr et certain que, comme j'ai dit, les sélections étaient faites surtout en conséquence du potentiel de médaille des athlètes. Donc, ceux qui se sont présentés à Rio au début des Jeux, on savait qu'il y avait un énorme potentiel de médailles pour chacun d'entre eux. Puis maintenant, bien, c'est de voir ce qui va être conservé comme approche pour les prochaines années. Puis je crois que cette récolte-ci va être tout à fait motivante. Ça va être un bel exemple à suivre pour les athlètes qui sont en développement dans les prochaines années. Puis justement, étant donné que c'est une récolte qui est historique, je pense que ça va juste mettre un plafond qui est plus élevé, avoir des attentes plus élevées, puis ça va juste faire grandir le sport au pays,
ça va
en général.
Ça va tirer tout le monde vers le haut.
Exactement.
Est-ce qu'il y en a un ou une ou plusieurs qui ont fait mieux, qui vous ont surpris?
Des surprises, je vous dirais plus ou moins. Je pense qu'il y a quand même Tristan Chernow de la Colombie-Britannique qui a très bien fait avec une médaille de chaque couleur, donc une de bronze, une d'argent et une d'or. C'est quand même une excellente récolte pour lui. Je vous donnerai aussi personnellement un highlight que je pourrais dire, désolé de l'anglicisme. On avait Mike Sammet sur la piste qui a récolté une médaille de bronze, qui avait récolté une médaille de bronze au contre-la-montre sur route. Donc ça, c'est une excellente performance. Puis ce jeune-là a 20 ans, donc il a tout l'avenir devant lui. Puis on sait que le cyclisme, c'est un sport à développement tardif.
C'est vrai.
Donc l'avenir est très, 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 très vert pour Mike. Puis il a fait une excellente performance aussi sur la piste, à la poursuite individuelle surtout, avec une 4e place super proche du podium. Puis en général, là, c'est sûr qu'il reste des courses à venir demain. Il nous reste les courses de Nicole Clermont et des trois tandems. Donc il reste encore d'autres espoirs, puis probablement de belles surprises à venir.
On parlait d'inspirer la relève ou enfin les jeunes. Elle se porte comment, cette relève? Est-ce qu'on a vraiment créé quelque chose qui risque de se renouveler?
Je crois que oui. Aussi, depuis 2014, avec Cyclisme Canada et plusieurs autres partenaires, il y a un nouveau programme de développement qui est né, qu'on appelle le programme Next Gen. Donc, c'est la prochaine génération. Avec l'effet d'entonnoir qui se passe avant les Jeux paralympiques, c'est sûr et certain que le développement y existe. Mais c'est pas le focus premier pays. Par contre, quand on voit une récolte aussi abondante dans le sport, ça va tout simplement stimuler le développement pour les prochaines années, c'est sûr et certain, étant donné que le paracyclisme a vraiment un très bon exposure dans les médias dans les derniers jours. Donc, je pense que ça va en motiver plusieurs à s'intéresser au sport et à s'intriguer sur ce que c'est le paracyclisme. Puis les ressources sont en place là, maintenant pour accueillir ce bassin d'athlètes-là. Puis les initiatives de développement vont être augmentées aussi dans les prochaines années.
Absolument. C'est un phénomène qu'on observe à chaque jeu paralympique et olympique également. Ben, Guillaume Plourde, le Canada se situe où selon vous là, sur l'échelle mondiale en termes de chiffres rapidement?
Canada, au total, je vous dirais qu'on est pas loin du top 10 en termes de récolte de médailles.
D'accord.
En paracyclisme, plus spécifiquement, ben on a eu une excellente journée de contre-la-montre. On peut quasiment parler d'une domination avec plusieurs
canadiennes
dans des classes différentes. À la course sur route, c'est tout le temps un petit peu plus un coup de dé, étant donné qu'il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent survenir. Mais je pense que le Canada s'en tire très bien. On a quand même une réputation à défendre depuis plusieurs années.
Et qu'il faudra continuer à défendre parce qu'elle... Elle grandit cette réputation. Guillaume Plourde, je rappelle que vous êtes entraîneur en paracyclisme chez Cyclisme Canada. Un grand, grand merci.
Merci à vous.
C'est le moment d'aller rejoindre notre collaboratrice à Rio, la journaliste de l'agence Sportcom, Émilie Bouchard-Labonté. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Témoin privilégié que tu es de ce qu'on est nombreux à nommer ou à désigner ici comme étant une espèce de passation des pouvoirs ou une passation, je dirais, du rôle de visage de la paranatation, certainement, et même des Paralympiques, peut-être en général, au Québec, soit Benoît Huot, d'un côté, qui tire sa révérence tranquillement, et Aurélie Rivard, qui, elle, est en train de d'écrire l'introduction de sa grande histoire.
Là. Tout à fait. Écoutez, on a été témoin, comme vous l'avez dit hier, j'ai été témoin de privilégié de vivre ça. Alors, Benoît Huot, à sa dernière course de ses Jeux paralympiques ici à Rio, mais probablement sa dernière course en Jeux paralympiques de sa carrière, remporte le 400 mètres, remporte la médaille de bronze au 400 mètres libre hier. On en avait parlé un peu, ça avait été difficile, l'histoire des Ukrainiens, tout ça, il a fini troisième, sa joie, ses émotions, tout était au rendez-vous hier. C'était vraiment la place à être à Rio.
Oui, on imagine. Excuse-moi, Émilie.
Oui, à côté de tout juste après Aurélie Rivard qui elle remporte la médaille d'or tout de suite après. Alors la passation des pouvoirs, comme on dit, le vieux de 32 ans, le vieux entre guillemets, hein, mais de 32 ans qui fait officiellement la passation des pouvoirs à la jeune Aurélie, 20 ans. Quand même, c'est deuxième jeu paralympique. Mais je parlais à Aurélie après sa course et faut savoir qu'elle, bon, Benoît, c'est son mentor, c'est lui qui l'a encouragé à performer ou en fait à prendre la voie de la paranatation. Et généralement, dans les chambres d'appel, il y a toujours une télévision. Donc, quand les athlètes sont là avant leur course, les athlètes peuvent suivre ce qui se passe dans la piscine. Mais hier, la télévision ne fonctionnait pas. C'était embrouillé. Ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait. Puis Aurélie, donc, elle ne fait pas ce qu'elle avait pour Benoît. Donc, c'est un des officiels qui est allé la voir, qui fait le chiffre 3, puis elle ne la comprenait pas. Ben pourquoi tu me fais le chiffre 3? Je comprends pas. Je me prépare pour la course. Qu'est-ce qui arrive? Et pour dire, non, Benoît est troisième. Donc, elle a crié dans la chambre d'appel. Elle était toute excitée. Mais en tout, il fallait qu'elle aille nager.
Bien, ça réveille. Ou enfin, ça c'est peut-être pas de mauvaise préparation.
Oui, probablement que ça l'a changé peut-être. Ouais. Sa nervosité un peu parce qu'elle avouait qu'elle avait été très nerveuse là, pour son 400 mètres libre. Elle avait été championne du monde. Elle avait fini deuxième à Londres. Donc, c'est une course très, très importante pour elle. Elle ne savait pas trop à quoi s'attendre puisque ça avait nagé quand même assez lent le matin. Donc, ça a probablement permis de changer de mal de place et de se concentrer sur quelque chose d'autre.
Le temps file, Émilie. C'est de ma faute. D'ailleurs, on a pris un peu de retard. Il nous reste une trentaine de secondes. Et entre nous, moi, j'aimerais savoir, parce que c'est un peu ce dont je parle depuis le hors d'onde et en onde, là, depuis le début de la journée. Penses-tu qu'elle sera désignée porte-drapeau pour le Canada à la cérémonie de fermeture?
Moi, je miserais sur elle. Ah oui.
Donc, on est deux. On est deux à penser ça? Au moins.
C'est bon, au moins. Au moins.
Émilie, écoute, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Désolé, on aura peut-être l'occasion de parler de rugby en fauteuil roulant la prochaine fois. Un grand merci encore une fois, puis on se retrouve dimanche.
À dimanche.
Au revoir. Alors qu'en toute fin d'émission, on retrouve Philippe Asselin. Philippe?
Je vais faire un petit correctif. J'ai dit 23 médailles en tout début d'émission. C'est 24 que le Canada est rendu. On parle de 7 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 8 de bronze, ce qui est bon pour la 13e position au classement des médailles. On en parlait hier, le Canada qui visait un top 16. C'est en voie réaliser. Ouais. Du moins, ça regarde extrêmement bien. Au niveau des autres nations qui dominent, la Chine, 197 médailles, donc quand même 85 d'or.
Vous avez appris sur nos ondes hier qu'ils vont sûrement gagner.
Et oui, parce que la Grande-Bretagne les suit de très loin avec 111 médailles quand même. L'Ukraine, les États-Unis, l'Australie qui complètent le top 5, comme depuis déjà une semaine.
C'est assez
déjà
inchangé, ouais.
Ça change entre l'Australie et le Brésil, du moins pour la 5e position. Et petit salut à Vincent Lochmann. Hier, on parlait justement de l'écart de médailles entre la France et le Canada. Ouais. Eh bien, la France est rendue à 23 médailles, journée fastidieuse.
Grosse journée pour la
hier.
France.
Oui, beaucoup de médailles. Je suis sûr que notre collègue Vincent nous en parlera demain pour sa dernière présence avec nous à l'émission. Sinon, à suivre ce soir du sport équestre, puisque Lawrence Bartwick sera en action en finale niveau 2. En natation, les finales de Tess Rutliff, Zach McAllister et de Morgan Bird. Donc, chacun dans leur catégorie respective. D'autres chances de médailles pour eux. Basketball en fauteuil roulant, le Canada mène toujours son match. En rugby, il y aura le troisième match du Canada qui affrontera l'Australie, quand même une puissance en rugby. Donc l'Australie sont 1-0, le Canada 2-0. Et sinon demain, de la natation, de l'athlétisme, de la fin des compétitions en cyclisme sur route et tout ça, bien entendu, j'en parlerai en tout début d'émission.
Demain, c'est la dernière grosse journée. Exactement. Dimanche, il restera 2-3 trucs, mais l'essentiel, enfin, ça va être costaud demain. Merci beaucoup, Philippe Asselin. Un grand merci à nos invités aujourd'hui. Aurélie Rivard, bien sûr. Guillaume Plourde, entraîneur en paracyclisme chez Cyclisme Canada. Et Émilie Bouchard-Labonté, journaliste pour l'agence Sportcom. Un petit merci tout spécial pour Christiane Campagna aux réseaux sociaux. C'est Mathieu Tessier qui était à la mise en onde aujourd'hui. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne soirée et à demain.